Bonjour à tous, voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres, Beauce et Perche. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Marie-Christine et bonjour à tous.
Nous allons ensemble quitter pour un peu de temps la plaine de nos jours ordinaires, laisser derrière nous les jours de neige et de froid, les jours d'inquiétude, et gravir ce matin une montagne, la montagne de la Transfiguration. Voilà, me direz-vous, un épisode bien étrange, incompréhensible à vue humaine, cette transfiguration de Jésus. Comment peut-il ainsi changer de visage, resplendir de gloire fulgurante, subitement? Pourquoi? Oui, voilà un épisode de la vie du Christ qui semble à première vue bien loin de la nôtre, au cœur de ce long hiver. Et pourtant, dans ces lignes d'évangile rapportées par Luc, il y a l'un des plus beaux enseignements sur notre vie à venir et sur la prière. Alors, laissons-nous entraîner, comme Pierre et Jean, laissons-nous entraîner par Jésus sur cette montagne. Et avant de lire l'évangile de Luc, je vous propose de commencer par un texte de la Genèse, au chapitre 15, les versets 5 à 18. C'est Dieu qui fait alliance avec Abraham. Il le mena dehors et lui dit « Contemple donc le ciel, compte les étoiles si tu peux les compter. » Puis il dit « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et pour cela le Seigneur le considéra comme juste. Il lui dit, « C'est moi le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Ur des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. » « Seigneur Dieu, répondit-il, comment saurais-je que je le posséderai ?» Il lui dit, « Procure-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un pigeonneau. » Abraham lui procura tous ces animaux, les partagea par le milieu et plaça chaque partie en face de l'autre. Il ne partagea pas les oiseaux. Des rapaces fondirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Au coucher du soleil, une torpeur saisit Abraham. Voici qu'une terreur et une épaisse ténèbre tombèrent sur lui. Il dit à Abraham, « Sache bien que ta descendance résidera dans un pays qu'elle ne possédera pas. On en fera des esclaves qu'on opprimera pendant 400 ans. Je serai juge aussi de la nation qu'ils serviront. Ils sortiront alors avec de grands biens. Toi, en paix, tu rejoindras tes pères et tu seras enseveli après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ta descendance reviendra ici, car l'iniquité de l'Amorite n'a pas atteint son comble. Le soleil se coucha, et dans l'obscurité, voici qu'un four fumant et une torche de feu passèrent entre les morceaux. En ce jour, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. C'est à ta descendance que je donne ce pays, du fleuve d'Égypte au grand fleuve, le fleuve Euphrate. »
Et le texte du jour se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 9, versets 18 à 36. Or, comme il était en prière à l'écart, les disciples étaient avec lui, et il les interrogea. « Qui suis-je au dire des foules ?» Ils répondirent, « Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres tu es un prophète d'autrefois qui ressuscitait. » Il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre, prenant la parole, répondit, « Le Christ de Dieu. » Et lui, avec sévérité, leur ordonna de ne le dire à personne en expliquant « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit mis à mort et que le 3e jour, il ressuscite. » Puis il dit à tous « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. » En effet, qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la sauvera. Et quel avantage l'homme a-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? Car si quelqu'un a honte de moi, de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Vraiment, je vous le déclare, parmi ceux qui sont ici, certains ne mourront pas avant de voir le règne de Dieu. » Or, environ 8 jours après ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Et voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie. Apparus en gloire, ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient écrasés de sommeil. Mais s'étant réveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui se tenaient avec lui. Or, comme ceux-ci se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, survint une nuée qui les recouvrait. La crainte les saisit au moment où ils y pénétraient. Et il y eut une voix venant de la nuée, elle disait, « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai élu, écoutez-le. » Au moment où la voix retentit, il n'y eut plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu.
Et pour terminer, nous écouterons dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, le verset 14. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Cette gloire que, Fils unique plein de grâce et de vérité, il tient du Père.
Jésus marche. Il marche sur les routes de l'évangélisation. Il marche, sans aucun lieu où poser sa tête. Un groupe de disciples, hommes et femmes, l'accompagne. Il annonce la bonne nouvelle, l'évangile du règne de Dieu. Il guérit des malades, malades du corps ou de l'esprit, ou des deux. Il accomplit des miracles. Même les vents et les flots lui obéissent. Et Jésus marche. Il marche vers Jérusalem, vers sa mort que les disciples auront tant de mal à accepter, à comprendre. Il marche vers la montagne, vers la rencontre. Mystère du très beau récit de la Transfiguration, où se trouvent réunis mort et résurrection, passion et gloire.
La transfiguration, dont nous venons d'écouter le récit dans l'Évangile de Luc, au chapitre 9, les versets 28 à 36, c'est le récit d'une vision. C'est une théophanie, c'est-à-dire une manifestation de Dieu sous forme de gloire et de nuée. C'est le récit d'une parole qui est promesse de vie malgré la mort et d'un exode qui est libération. D'une présence et d'une action de Dieu hier, aujourd'hui et demain. Les trois évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, rapportent de façon presque identique le récit de la transfiguration de Jésus. Le lieu est choisi par Jésus, c'est une haute montagne, peut-être le mont Tabor ou l'Hermon, ou plus simplement une montagne sans nom. Et Jésus gravit cette montagne, accompagné de Pierre, d'André et de Jean, fils de Zébédée. Ce sont les trois mêmes qui seront à ses côtés lors de son agonie à Gethsémané.
Jésus a ainsi voulu révéler sa gloire à ceux qui seront les futurs témoins de son abaissement. Et à la fin du récit de la Transfiguration, Luc dit « Les disciples gardèrent le silence et ne racontèrent à personne en ces jours-là ce qu'ils avaient vu. » Autrement dit, la Transfiguration ne prend un sens, une valeur d'évangile qu'à partir de la résurrection de Jésus. C'est comme si la lumière de la Transfiguration lui venait rétroactivement de la lumière de Pâques.
La lumière de la Transfiguration, c'est un instant très rapide, comme un éclair fulgurant, aveuglant. Et les disciples ne comprendront la scène qu'après, avec l'aide de la pleine lumière de Pâques. La Transfiguration, en quelque sorte, c'est un événement ambigu, dont on ne peut pas et dont on ne doit pas vouloir épuiser sur le champ toute la signification. Et Pierre commet la faute de vouloir fixer définitivement, fixer et figer l'événement, installer dans sa vie d'homme la gloire éternelle de Dieu.
Prétendre emprisonner Dieu dans nos temples et dans nos vies. Maître, il est bon que nous soyons ici, dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Luc ajoute, il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre parle de tente, en référence sans doute à la tente d'assignation où se trouvait le tabernacle. Il parle donc en réalité de temple, c'est-à-dire de lieu où Dieu est supposé habiter. Comme dans Exode au chapitre 40, alors la nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle.
Pierre et les deux autres disciples vivent donc cet instant de la Transfiguration en pleine illusion, en pleine ambiguïté, en pleine crainte aussi, en plein émerveillement, désemparés et en même temps désireux de servir leur maître. Ils étaient, dit Luc, alourdis de sommeil. Puis il dira qu'ils se réveillèrent pour contempler la gloire de Jésus et entendre la voix de Dieu confirmant Jésus comme son Fils bien-aimé. Et on sait que lorsque le Nouveau Testament parle de se réveiller, il y a souvent une allusion cachée à la résurrection du Christ.
Église protestante unie de Chartres sur Radio Grand Ciel, présentée par Marie-Christine et Jean-Paul Devels, avec à la régie Simon Martin et Tess. Pendant l'émission, nous écouterons des extraits de la messe en si de Jean-Sébastien Bach de Nicolas Arnoncourt. Nous vous parlons aujourd'hui de la Transfiguration. En fait, Pierre se trompe. La nuée, la gloire, la présence de Dieu ne viendront pas se poser sur des tentes ou sur des temples. La nuée les couvrira tous, Jésus, Moïse, Élie et les trois disciples. Un jour, beaucoup plus tard, après la résurrection et à cause de la résurrection, Pierre, Jean et Jacques comprendront ce qui se sera passé ce jour-là sur la montagne.
Et que d'abord, tout s'est passé dans le cadre de la prière. Le récit commence ainsi. Jésus monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. L'événement de la transfiguration est donc avant tout un événement de nature spirituelle qui se produit pendant la prière de Jésus. Jésus sait qu'il va bientôt mourir. C'est le visage d'un homme qui va mourir bientôt, qui se transforme durant le dialogue de la prière en visage d'un homme ressuscité.
La transfiguration ne raconte rien d'autre que la résurrection, la promesse et la réalité de la résurrection. Moïse et Élie, c'est la présence de l'Ancien Testament, le rappel des délivrances de Dieu dans le passé, c'est-à-dire de son alliance indéfectible, de sa fidélité, de son amour, de la validité de ses promesses.
Moïse et Élie parlent à Jésus de son départ. Le mot grec utilisé dans le texte d'origine pour départ est exodos, l'exode. Il parle d'exode, mais de son exode à lui, Jésus, à Jérusalem, au bout du chemin terrestre, à l'accomplissement, au chemin de vie au-delà de la mort, libération pour une multitude d'hommes, car la mort sera vaincue.
La transfiguration, c'est lorsque la vie offerte par Jésus pour tous devient, à travers sa mort même et sa résurrection, force de vie et de résurrection pour chacun de nous. Nous le rappelons chaque fois que nous prenons la scène. Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup. Je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père.
Et maintenant que la transfiguration transfigure nos vies et que dans notre prière, toutes nos craintes soient surmontées. Les disciples furent saisis de crainte tandis qu'ils entraient dans la nuée, dit Luc. Dans la prière, dans la nuée, nous ne voyons plus très bien, mais nous sommes en présence de Dieu et son regard est sur nous, son regard d'amour.
Et même si nous ne pouvons pas posséder Dieu par l'image, une voix se fait entendre dans le silence, dans la nuit, dans les peurs et les ambiguïtés de notre vie. Ne crains point. Ne prétends pas à l'illusion de voir Dieu en face, face à face.
Personne n'a jamais vu Dieu, dit le prologue de Jean. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, nous l'a fait connaître. Et c'est cette même parole sur le Fils unique que les disciples entendent dire en conclusion de cet événement de la transfiguration. De la nuée sortit une voix qui dit « Celui-ci est mon Fils élu, écoutez-le ».
Quand la voix se fit entendre, dit Luc, Jésus se trouva seul. Nous prétendons souvent voir Dieu, le posséder, dresser une tente, comme pour emprisonner sa gloire et décider ainsi à sa place du bien et du mal, comme Adam et Ève, par exemple.
Nous voulons des certitudes quasi mathématiques, ou alors des visions spirituelles qui nous permettent de nous évader sur la montagne d'une transfiguration où nous capterions et fixerions Dieu dans la tente ou le temple de notre imaginaire religieux.
Ce n'est pas ainsi qu'il faut comprendre la prière. La prière n'est pas le lieu d'une évasion pour nous et d'une prison pour Dieu.
La prière est le lien, l'instant, d'une transfiguration autre. Non pas une fuite ailleurs, mais la lumière d'un ailleurs invisible, venant peut-être pour un bref instant apporter dans nos vies, dans nos luttes, dans nos joies, dans nos maladies et dans notre mort, une révélation éclairante, un éclair d'espérance, le visage du ressuscité, le visage de notre résurrection. Notre résurrection qui est au-devant de nous, mais déjà aussi en nous.
Dieu est mon avenir, mon présent et mon passé. Il est le Dieu de ma résurrection, le Dieu de ma vie. Pour ce qui est de la résurrection des morts, disait Jésus aux Sadducéens, qui niaient la possibilité de la résurrection, n'avez-vous pas lu ce que Dieu a dit ? Moi je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants.
Ainsi, avec Abraham, Moïse et Élie, avec la grande nuée des témoins, l'évangile de la transfiguration nous fait entrevoir un instant et rencontrer le Dieu de lumière, le Christ ressuscité et vivant, Jésus-Christ transfiguré.
La transfiguration de Jésus qui allait mourir peu de temps après nous redit que, même dans notre nuit, notre souffrance et notre mort, Dieu n'est pas absent de notre vie. Nous n'avons pas à l'arracher de son ciel pour l'obliger à habiter nos tentes, mais à ouvrir les yeux, à rester éveillé pour discerner sa présence, pour l'écouter.
Nous n'avons pas de temple à construire de nos mains pour y emprisonner Dieu dans l'illusion de nos mensonges.
L'apôtre Paul nous dit dans sa première lettre aux Corinthiens, « Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. »
Oui, le Christ transfiguré habite nos vies et illumine nos nuits profondes. De la nuée sortit une voix qui dit « Celui-ci est mon Fils élu, écoutez-le. » Écoutons la voix du ressuscité, il est ici, au milieu de nous, avec nous, jusqu'à la fin du monde. Amen. Je vous dis au revoir, enfin, je vous rappelle qu'il y a culte tous les dimanches matins au temple Varus Saint-Thomas à Chartres à 10h30. Je vous dis au revoir et à bientôt.
Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.